Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 1956, les Amants de Vendôme, troisième volet de notre série Faits divers cette semaine. On les a dit diaboliques, maudits, envoûtés. Pour raconter leur histoire, journalistes et écrivains ont convoqué Racine, Médée et toute la mythologie grecque. Car il leur fallait trouver, en littérature, les mots d'un crime indicible. Le 8 novembre 1954, Denise Labbé assassine sa petite fille de 2 ans et demi pour satisfaire son amant, Jacques Algaron, qui exigeait d'elle le sacrifice de l'enfant comme preuve d'amour suprême. Le procès des Amants de Vendôme, comme les surnomme la presse, sera l'un des plus retentissants de l'après-guerre. Il parle d'une époque et de ses angoisses, d'une France effrayée par sa jeunesse, par le bouleversement des repères moraux et par toutes les idées nouvelles germanopratines. L'affaire soulèvera aussi de nombreuses questions de droit. Comment juger de l'influence d'un amant sur sa maîtresse? Aujourd'hui, on parlerait d'emprise. Peut-il y avoir un assassin de fait et un assassin moral? Pour nous accompagner dans les méandres du prétoire, vous entendrez tout au long du récit la voix du célèbre chroniqueur Frédéric Potcher, le tribun du tribunal, l'homme qui, à travers les nombreux faits divers qu'il a couverts, aimait avant tout raconter des histoires, puisant dans le réel cette inépuisable source d'inspiration. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Chauveau, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers, spécialiste de l'histoire de la violence et du crime, auteur notamment de « Figures de femmes criminelles », livre publié aux éditions de la Sorbonne en 2010. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait.
Qui s'appelait ? On ne se souvient plus du nom du bal perdu, en principe. Sauf là. Il remonte au 1er mai 1954, à Rennes. Denise a 28 ans, le visage rond, les cheveux blonds. Elle est d'une grande beauté, elle est moderne d'esprit. Pour aller danser, elle a sorti sa plus belle robe. Un brin de muguet épinglé sur la poitrine. Peut-être lui portera-t-il chance, ce ne serait pas de refus. Denise Labbé est née en 1926, au milieu des années folles. Sa mère est lavandière, son père facteur, parent de 4 enfants bien importants, une famille honorable, dit-on au village de Melès, à quelques kilomètres de Rennes. La petite Denise obtient son certificat d'études avant d'être envoyée au pensionnat de Dole pour poursuivre son éducation. Nous sommes à l'été 40. La Bretagne est occupée. Dans la cour d'école, on chante à la gloire du maréchal. Mais ça ne durera pas pour Denise. Un dimanche d'août, quelques semaines seulement après son admission, son père meurt noyé dans le canal. Accident, suicide, on ne le saura jamais. Denise, elle, a 14 ans. Finit les études, elle doit désormais travailler pour aider sa mère. Elle est placée comme bonne à tout faire, avant d'être embauchée dans un camp d'aviation pour raccommoder les uniformes. Elle y restera jusqu'à la fin de la guerre. À la libération, elle a 18 ans et de grandes ambitions. Elle voyait haut, dira sa mère. C'est pourquoi on l'a jugée fière. Voir haut pour Denise, ça veut dire quitter la campagne, s'installer en ville, gagner de l'argent et donc son indépendance. Elle passe alors le concours de l'Institut National de la Statistique de Rennes et décroche un poste de secrétaire. C'est une employée sans histoire, on l'a dit sensible, joyeuse malgré les épreuves de la vie. On l'a dit aussi légère. Rennes est une ville universitaire, elle y rencontre plusieurs étudiants, des aventures d'un soir, et voilà ce que l'un d'eux dira d'elle.
À cette époque, Denise Labbé était d'une intelligence exceptionnelle, mais d'une instabilité sentimentale surprenante. Elle changeait souvent d'amis, de rencontres. C'était la fille sympathique qui ne donnait pas d'importance à l'acte sexuel ou qui ne semblait pas en donner. En définitive, elle était incapable de s'attacher.
Au début des années 50, elle se lie à un jeune interne de l'hôpital de Lorient. Et cette fois, c'est du sérieux. Le couple s'installe et Denise tombe enceinte. Mais les temps sont durs. Le futur médecin n'a pas assez d'argent pour s'établir, alors il décide de s'engager en Indochine. Denise hésite à le suivre. Et puis non, au fond, elle n'y tient pas tellement. Elle accouche donc seule de leur petite Catherine et part dans la foulée s'installer à Paris où elle est mutée. L'aventureux docteur, lui, finit par rentrer, détruit par la guerre, dépressif et alcoolique. Le couple se sépare pour de bon. Denise se retrouve fibère, comme on dit à l'époque. Courageusement, elle en prend son parti et ne compte plus ses heures. Le soir, en rentrant du bureau, elle se met au tricot pour arrondir les fins de mois. Sur les conseils d'une amie, elle place Catherine chez Madame Laurent, à Ville-Louvette, en région parisienne. Et la petite ne manque de rien, surtout pas d'amour, comme en témoignera plus tard sa nourrice.
Rien n'était trop beau pour Cathy, que nous adorions. Denise venait la voir tous les dimanches. Je la considérais, elle aussi, un peu comme ma fille. Je peux jurer qu'elle aimait son enfant. Cathy avait un petit trousseau brodé à la main, comme j'en ai rarement vu. Denise donnait 10 000 francs par mois. Elle se passait souvent de déjeuner le dimanche pour prendre le train. C'était une vraie maman, jusqu'au jour où l'autre lui a chaviré la tête.
Celui qui va faire chavirer le cœur de Denise vient tout juste d'entrer en piste, ce 1er mai 1954, sous les lumières du petit bal perdu. Il a fière allure avec son costume d'élève militaire de Couette-Quidan, grand garçon aux cheveux courts. Il s'appelle Jacques Algaron. Il a 24 ans, un visage d'adolescent et de beaux yeux verts. « Vous dansez, mademoiselle ?» lui demande-t-il, main tendue. Séduite, Denise se laisse tenter. Le samedi suivant, elle lui accordera bien plus qu'un pas de danse, parce qu'elle est comme ça, Denise, libre. Lui aussi, d'ailleurs, c'est un vrai bourreau des cœurs. Il multiplie les conquêtes, il les prend à la hussarde, si j'ose dire. Et lui a l'habitude de dire « Les assauts d'alcôve préparent les futurs combats. » Résultat, il devient père à 17 ans. Il reconnaît l'enfant, mais le laisse à la charge de sa mère. À 22 ans, rebelote, une autre de ses fiancées lui annonce qu'elle est enceinte. Jacques se défile une nouvelle fois. Entre-temps, il a intégré Saint-Cyr et court désormais les bals, coiffé de son casoir. Alors on se dit qu'entre Denise et Jacques, ce ne devrait être qu'une aventure, de plus. Mais l'amour s'en mêle, et c'est la passion. Puis ce sont les ténèbres. Neuf mois après leur première rencontre, en effet, les voilà tous les deux devant la porte d'un juge d'instruction dans l'attente d'être confrontés. Denise Labbé, 30 ans, est accusée d'avoir assassiné à Vendôme, le 8 novembre 1954, sa petite fille Catherine, alors âgée de 2 ans et demi. Jacques Algaron, 26 ans, lui, est accusé d'être le complice et l'instigateur de cet infanticide. Ce 20 février 1955, dans le bureau du magistrat, leurs regards se croisent à peine. Ce ne sont pas seulement les gendarmes qui les séparent désormais, mais le mystère de l'acte impensable qui les a conduits ici. Peut-être un peu de haine aussi, Jacques, parce que Denise veut l'entraîner avec elle dans le châtiment de son crime. Denise, parce qu'elle a aimé ce garçon en mourir et qu'elle n'a su lui offrir que le sacrifice de son enfant. « Il est le diable », répète-t-elle au magistrat instructeur Baer. « Cette femme est folle », répond Algaron. Les confrontations durent parfois plus de 8 heures, en vain. Entre les deux anciens amants, c'est un éternel dialogue de sourds. Denise, pourtant, est précise dans ses affirmations, sûre de ses souvenirs.
Voyons, Jacques, rappelez-vous. Ce n'est pas possible que vous ne vous rappeliez pas de ce jour où vous m'avez dit « il faut que tu immoles ton propre sang » et seul ce sacrifice glorifiera notre amour. C'était un samedi et je vous ai répondu « mais nous n'avons pas le droit de faire cela ». Et vous m'avez répliqué « on a le droit de faire ce que l'on veut ». Et c'est surtout parce qu'on n'a pas le droit de commettre un acte que cet acte prend une valeur singulière.
Face au juge d'instruction, Jacques Algaron ne lâche rien. Ses avocats sont inquiets. S'il garde une telle attitude aux assises, leur tâche sera harassante. Celle des jurés aussi. Mercredi 30 mai 1956, une petite foule se presse devant les marchés du palais de justice de Blois. Tout le monde est là, les ténors du barreau et les pattes d'eau, les journalistes et leurs grands titres. Aujourd'hui s'ouvre, écrivent-ils, le procès de l'amour monstre, celui des amants diaboliques, maudits, tragiques. Les adjectifs ne manquent pas. L'écrivain Jean Cocteau parlera du procès du siècle. André Breton de l'un des plus grands égarements de l'esprit. Le conseiller Lecoq, qui préside les débats, demande le silence dans la salle. Faites entrer les accusés. Tous les regards se tournent vers eux. Et au premier rang, celui de Frédéric Potcher, le célèbre chroniqueur judiciaire de l'ORTF.
Ici Frédéric Potcher qui vous parle du palais de justice de Blois. On est un peu surpris à l'entrée des accusés dans le box par le pauvre visage rond et douloureux de Denise Labbé, avec ses cheveux roulés en coque sur ses oreilles. Et il y a aussi le petit œil rond et la minceur des lèvres d'Algaron. Devant le conseiller Lecoq qui préside ses débats assisté de Mme Copinci et de M. Sorlin, il y a la lessiveuse dans laquelle, vous savez, à observer Denise Labbé, son maintien modeste, sa mine défaite, on n'arrive pas à imaginer la scène. La petite Catherine plongée dans cette lessiveuse, noyée dans cette lessiveuse par sa mère. Après lecture de l'acte d'accusation, le décor du drame est planté, rien n'y manque, et voici qu'un orage éclate. Éclair et coup de tonnerre, on entend passer une voiture de pompiers, panne de lumière, et le président continue.
Ainsi, c'est dans une semi-pénombre que le président Lecoq poursuit la lecture de l'acte d'accusation. Puis, lentement, sans rien négliger, il dépeint le passé des accusés, leur vie respective avant le drame. Denise d'abord, son père noyé en 1940, les petits boulots pendant la guerre, son poste de secrétaire et la naissance de la petite Catherine, qu'elle devra élever seule. « Vous en étiez si fier », souligne doucement le président. De Jacques Algaron, on apprendra qu'il est l'enfant naturel d'un vieillard, officier en retraite, qui hésita longtemps à épouser sa mère. D'ailleurs, l'un de ses demi-frères l'a toujours considéré comme un intrus. L'autre fut condamné à mort à la libération. Or, c'était son seul allié. Jacques se retrouve bien seul. À ces tristes années, succède une adolescence à la fois secrète et ardente. Il aime les livres et les philosophes, mais il décide d'entrer à Saint-Cyr, par souci de rigueur et de virilité, dira-t-il. Ses camarades le décrivent comme orgueilleux. Les amants maudits ont donc en commun une enfance ingrate et une sexualité précoce, en tout cas pour l'époque. Mais cela ne saurait suffire à expliquer la suite. C'est Denise Labbé qui est appelée la première à la barre. Mais pourra-t-elle seulement parler, paralysée par la solennité du prétoire devant cette salle archi-comble? Et puis il y a sous ses yeux cette terrible pièce à conviction, la lessiveuse où elle a plongé sa petite fille un an et demi plus tôt. Son avocat, maître Maurice Garçon, star du barreau, la tient par le bras, l'encourage à répondre. Et Algaron est là, tout proche. Denise tremble sous son regard et celui de son avocat, maître René Floriot, un ténor, lui aussi d'ailleurs c'est bien simple, ce jour-là, le tribunal accueille tout ce que la chronique judiciaire compte de stars, qu'elles soient du barreau, de la magistrature ou de la presse spécialisée police-justice. Les secondes s'écoulent. Dans le silence, toute la salle attend ses premières paroles.
17h10. Après une suspension, le président Lecoq dit à Denise Labbé « Maintenant, Denise Labbé, il faut parler. Le 1er mai 54, vous rencontrez à Rennes dans un bal Algaron. » Et Denise Labbé se lève mais n'arrive pas à parler. Le président l'aide. Le 5 mai 54, vous recevez une lettre d'Algaron. Le président lit cette lettre, qui est un affreux et interminable discours d'une obscénité que cherche à peine à couvrir un pathos philosophique. Et cela se termine, bien entendu, par un rendez-vous.
Denise raconte alors les premiers mois de leur amour. Jacques, plus jeune qu'elle, déborde de vanité. Il a lu Sade, Gide, D'Annunzio et surtout Nietzsche. Il lui écrit des lettres pleines de théories philosophiques confuses. Il y mêle le mythe du surhomme et sa poursuite de l'absolu. Il lui parle de la pureté qui ne gît qu'au fond du mal. Il lui dit aussi que l'amour peut se mesurer au degré des souffrances qu'un homme et une femme sont capables de s'infliger. Au lit d'abord. Dès le départ, leurs rapports sexuels sont très brutaux. Jacques lui lacère le dos, la poitrine et les fesses, lui donne parfois même de petits coups de canif. Dans une autre lettre, Denise se plaint, sans vraiment se plaindre, du temps que les plaies mettent à cicatriser. Mais Jacques se lasse vite, il la pousse à coucher avec d'autres hommes et lui demande de tout lui raconter en détail. Il lui demande aussi si elle serait capable, par amour, de tuer n'importe qui. Tiens, ce chauffeur de taxi, par exemple, qui un jour l'est conduit. Mais ces jeux sadiques ne l'amusent pas longtemps non plus. Denise, elle, est subjuguée par son Jacques. 3 mois après leur rencontre, en août 1954, elle lui annonce, joyeuse et fière, qu'elle est enceinte de lui. Il lui ordonne de se débrouiller pour avorter, sinon... c'est qu'elle ne l'aime pas. Incrédule, déchirée, elle finit par accepter. Puis, à la fin de l'été, Jacques trouve le mobile parfait, celui qui va enfin donner un peu de piquant à leur amour et les souder à jamais. Le 29 août 1954, dans un restaurant près de Notre-Dame, il demande à Denise l'impensable.
Le président, je voudrais maintenant que vous racontiez ce dîner de septembre, ce dîner que vous avez fait avec lui, près de Notre-Dame, à Paris. Denise Labbé. Oh, nous parlions de l'extraordinaire qu'il recherchait sans cesse. Alors il m'a dit, mais ne cherchez plus, voyons, vous avez une fille. La tueriez-vous pour moi? J'ai répondu oui, Algaron. Mais enfin, monsieur le président, c'est absurde, voyons. Entre la poire et le fromage, moi, j'aurais dit ça. Mais c'est invraisemblable, Denise Labbé. Non, c'est un fait, il l'a dit, maître Floriot. Vous avez dit, Denise Labbé, à propos de l'incident du taxi, de sa part, ce n'était pas extraordinaire. Et à propos de l'incident du restaurant, vous avez dit, il était normal que je lui réponde. Oui, Denise Labbé. Mais la question est au moins aussi extraordinaire que ma réponse. Il me demandait toutes sortes de choses, messieurs, le président. Et vous faisiez tout, Denise Labbé. Oui, tout.
À la barre, Denise n'en peut plus. Elle est secouée de sanglots. Maître Garçon se tourne alors vers les jurés et regarde droit dans les yeux comme pour leur dire... Regardez, vous voyez qu'elle ne nie rien. Abrégeons maintenant ce calvaire. Dehors, l'orage a cessé, la nuit est tombée sur Blois. Denise est toujours là, debout dans son box, exténuée, fixant sans cesse cette foutue lessiveuse qui trône, absurde, indécente, sur l'estrade du ministère public. Mais son calvaire sera encore long, car elle doit désormais trouver les mots pour raconter l'indicible, un infanticide prémédité. Transgression majeure. Me.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Ce drame pathétique a beau appartenir proprement, typiquement à notre époque, il eût pu se produire sous tous les climats et en n'importe quel temps. Aussi s'en dégage un souffle, un accent, une leçon, un exemple qui intéresse l'humanité tout entière. Est-ce une phrase imprudente, un écart fortuit d'imagination plus voisin de la plaisanterie que d'une gageure qui a provoqué le drame, ou une proposition lucide, explicite, formulée sérieusement, solennellement? Toute la part d'Algaron est là. Tout le procès repose sur ce dilemme.
En 1962, l'écrivain Marcel Jouhandeau publie chez Gallimard « Trois crimes rituels », un petit livre dans lequel il livre les réflexions sur trois procès restés célèbres. Tous ont en commun, dit-il, d'être des manifestations presque pures de l'esprit du mal, des actes de magie noire. Le premier chapitre est donc consacré à l'affaire Denise Labbé et Jacques Algaron. Dans cet extrait que vous venez d'entendre, il pose la grande question du procès, celle qui trône au cœur de tous les débats. Quelle est la responsabilité de Jacques dans le meurtre commis par Denise? Est-il lui aussi l'assassin par personne interposée de la petite Catherine? Et comment juger de l'influence qu'il exerçait sur sa maîtresse? 30 mai 1956, Palais de Justice, Blois. La première journée du procès des amants de Vendôme s'achève sur le récit glaçant de l'infanticide plus que prémédité. La preuve. Avant le meurtre, Denise Labbé avait déjà tenté par trois fois d'assassiner sa fille de 2 ans et demi. À la barre, saisie de tremblements, chuchotant presque, elle raconte. La première fois, c'était à Rennes. Le 22 septembre 1954, 5 mois après sa rencontre avec Jacques, Denise rend visite à sa mère. Elle vient de recevoir une lettre de rupture de son amant. Puisqu'elle n'est même pas capable d'un acte extraordinaire pour lui, autant arrêter tout de suite. Bouleversée, elle sort sur le balcon, suspend sa fille au-dessus du vide, lâche une main, puis la retient au dernier moment. 5 jours plus tard, le 27 septembre, Denise recommence. Mais cette fois, elle jette Catherine dans une écluse du canal d'île Errance. Mais immédiatement, elle appelle au secours. Un jardinier plonge et sauve la fillette. Denise, elle, s'empresse d'écrire à Algaron. Elle lui demande « L'amour va-t-il être plus fort que la peur et le diable plus habile que Dieu ?» Dans son compte-rendu d'audience, le chroniqueur judiciaire Frédéric Potcher dévoile au public la suite de cette lettre.
« Et il y a enfin cette lettre à Algaron du 30 septembre où elle dit « Catherine ne quitte pas sa grand-mère ». Cette lettre en vérité est terrible. Elle dit qu'elle veut être sa femme, ce qui suppose qu'elle accepte l'idée de tuer son enfant. Et elle ajoute « Il me faudra tant de courage, je me vois déjà en prison attendant le verdict. » Et elle termine en écrivant « J'ai peur ». L'audience continue, les débats semblent vouloir se prolonger assez tôt.
La troisième tentative a lieu 2 semaines plus tard. Le 17 octobre 1954, comme tous les dimanches, Denise se rend à Villouvette chez Madame Laurent, la nourrice de Catherine. Les enfants jouent dans la cour, les adultes préparent le repas. Tout à coup, Denise s'écrie « J'en ai assez d'ouvrir les huîtres ». Alors elle saisit Catherine par le bras et l'entraîne faire un tour au fond du jardin. Quelques minutes plus tard, elle revient, seule et hagarde. « Catherine a disparu », dit-elle. La nourrice affolée sort, cherche et finit par trouver l'enfant presque noyé, grelottant sur une berge de l'orge, toute proche, où le courant l'a échoué. On croira encore, mais avec moins de conviction tout de même, à un accident. Le même jour, Denise Labbé accourt à Paris retrouver Jacques. Oscillant entre rébellion et soumission, elle s'excuse de ce nouvel échec. Alors il se moque d'elle, elle n'est décidément bonne à rien. Et il la quitte pour rejoindre son régiment à Chalon-sur-Saône. Denise passe quelques jours chez sa sœur à Vendôme, près d'Orléans. Aux assises, le président Lecoq prend le relais pour raconter l'horrible scène finale. Denise n'est plus capable de parler. Algaron lui serait dit « Pour la première fois, peut-être, on aperçoit un trouble. » Le 8 novembre 1954, Denise réussit enfin à tuer sa fille dans la cuisine de sa sœur, lui enfonçant la tête dans une lessiveuse remplie d'eau sale. Quand pompiers et gendarmes arrivent, elle leur dit encore qu'il s'agit d'un accident. Puis elle envoie un télégramme à Jacques. « Catherine décédée, à bientôt peut-être. » L'amour a eu son tribut. Mais quand 3 jours plus tard, il se retrouve à Paris, Jacques est distant. Je suis très déçu, ça ne me fait rien, dit-il. Alors il la quitte, définitivement cette fois. Le 23 novembre 1954, alerté par plusieurs témoignages concordants, la police convoque Denise Labbé. Deux semaines plus tard, elle finira par avouer et tenter d'expliquer son geste. Al Garon est arrêté aussitôt après. Un an et demi plus tard, devant les assises du Loir-et-Cher, la première journée du procès des amants de Vendôme se termine, éprouvante. Demain, ce sera au tour de Jacques, suivi par une cohorte de témoins et d'experts psychiatriques. 31 mai 1956. Au matin, dès le début de l'audience, Al Garon contre-attaque. Droit, les bras croisés, le regard dur, il parle posément. Simplement aussi, contrairement à ce qu'on attendait.
Je pourrais dire que Mademoiselle Labbé est monstrueuse. Ce serait peut-être mon intérêt. Mais je ne peux pas, car je ne parviens pas à faire coïncider les deux femmes. Celle que j'ai connue et celle qui a commis l'assassinat. J'étais apparemment le seul à ignorer la passion qu'elle éprouvait pour moi et dont elle avait fait confidence à d'autres personnes. Certes, elle m'avait dit qu'elle serait capable de n'importe quoi pour moi. Mais comment aurais-je pu penser qu'elle songeait à accomplir l'acte qu'elle a commis ? Maintenant, je me rends compte que la moindre des paroles que je pouvais dire se rattachait à son obsession.
Ces paroles se retrouvent dans les lettres qu'il envoyait à Denise. Oui, entre les lignes, revient souvent le même thème obsédant, celui du couple extraordinaire ou de la pureté du mal absolu. Mais ces lettres, ces pièces à conviction, ne sont malheureusement pas toutes là. Car lorsqu'elle a été soupçonnée, Denise a conseillé à son amant d'aller chez elle et de détruire les lettres qu'il lui avait adressées. Elle croyait encore à ce moment-là en leur amour. Jacques s'est empressé de suivre ce conseil, mais il a oublié chez lui quelques brouillons. Comme celui-ci, écrit juste avant l'assassinat de Catherine. On peut y lire « De préférence, envoyez-moi un télégramme. Je ne recevrai qu'un mot de vous, rapide par nécessité, décisif par sa beauté. » Quelques jours plus tard, elle lui répondait par télégramme donc « Catherine, décédée. » Le président Lecoq s'explique mal ces lignes. Al Garon hausse les épaules. Denise a mal interprété, comme d'habitude. L'avocat général s'étonne de la réaction de Jacques lorsqu'il apprend le meurtre. Devant ses camarades officiers, il déclare qu'il y a là quelque chose d'admirable. « Je l'ai en effet déclaré », répond l'accusé avec un léger sourire. « Mais ai-je besoin de dire qu'il s'agissait d'une idée générale ? Certains monstres sont sacrés. Il faut parfois les mêmes qualités pour la monstruosité que pour la sainteté. C'est un commentaire qui m'a été inspiré par Bernanos », conclut-il. Après un court instant de silence, Al Garon reprend. Je crois à la sincérité de Denise Labbé, du moins lorsqu'elle déclare qu'elle avait vu dans mes paroles une incitation au crime. Mais elle ment lorsqu'elle affirme que je lui ai demandé cela expressément, clairement. C'est sur ces déclarations que se termine l'interrogatoire d'Al Garon. L'audience est suspendue, elle reprendra cet après-midi avec l'audition des experts psychiatres. Et vu la nature du crime, on imagine qu'ils ont eu du pain sur la planche.
Cet après-midi, le docteur Gouriou, médecin aliéniste qui a examiné les accusés, déclare d'abord « Ils sont tous deux pleinement responsables. Denise Labbé est, selon le témoin, une fille assez intelligente, très souple, froide, comédienne née, mais sincère cependant. Al Garon a dit d'elle, c'est une folle. En réalité, dit le docteur Gouriou, je pense que Denise Labbé a eu une idée utilitaire qui s'est ensuite changée en obsession. Utilitaire, messieurs, parce que l'enfant était un obstacle au mariage auquel elle rêvait. Elle a cru aux digressions en poulet d'Al Garon. Quant à lui, monsieur, lui, Al Garon, c'est un être froid et énigmatique. J'ai demandé moi-même à Al Garon pourquoi il avait choisi la carrière militaire. Et il m'a répondu, « Docteur, la patrie, c'est un partenaire idéal, irréel. Vous le voyez, messieurs, c'est un esprit faux, c'est un orgueilleux. »
Enfin, quelques dizaines de témoins se présentent à la barre. Il y a ceux qui, d'une certaine manière, confirment les déclarations de Denise. Madame Laurent, la nourrice aimante de Catherine, rapporte par exemple que la jeune femme, dont la mélancolie soudaine l'étonnait, déclara un jour à sa mère « Si tu savais ce que Jacques me demande de faire, mais c'est odieux, c'est atroce !» Au nom de quoi, Madame Laurent lâche dans un souffle « Même maintenant, je lui pardonne. » Il y a aussi cet homme que la presse surnommera l'homme de la destinée. Le 18 octobre 1954, soit deux jours après la noyade manquée de Villouvette, il aperçoit Denise Labbé près de la gare de l'Est. Elle tourne sur le quai, séduisante et désemparée. L'inconnu lui propose de l'aider à porter sa valise. Elle pleure encore. Et à cet ami d'une brève rencontre que l'enquête a permis de retrouver, elle parle de son amant qui l'oblige à tuer sa fille. Viennent ensuite les témoins de la défense d'Algaron, des camarades qui le disent sympathique, des proches qui le jugent incapable d'une telle cruauté. Six jeunes filles enfin qui l'ont fréquenté un temps. Pour elles, il n'y a pas eu d'envoûtement. D'ailleurs, aucune n'a pris au sérieux ses propos pseudo-philosophiques.
Quant à la mère d'Algaron que nous avons vue tout à l'heure, elle ne prononça à la pauvre femme que quelques mots extrêmement douloureux, extrêmement vrais. « Quelle que soit l'issue de ce procès, dit-elle, mon fils a mon estime, ma tendresse, car il a été trop bon pour moi, qui ai tant et tant souffert. » À 19h, le procureur Gay n'a pas encore terminé son réquisitoire. Demain, plaidoirie et sans doute verdict dans la soirée. Ici, Frédéric Potcher, qui vous a parlé du palais de justice de Blois.
Samedi 2 juin 1956, quatrième jour d'audience. C'est le dernier acte du procès des amants de Vendôme, l'heure des plaidoiries. Maître Floriot, vous avez la parole, annonce le président Lecoq. L'avocat d'Algaron se lève, ajuste sa robe, respire une dernière fois, marque un silence et se lance. Je n'accablerai pas Denise Labbé, c'est une malheureuse. Je crois qu'elle ne ment pas, mais c'est aussi une détraquée. Et soudain, dans la bouche du ténor, l'affaire passe du drame à une sorte de comédie. L'avocat semble faire éclater une à une les pièces du dossier. Son client, le diable des premiers jours, apparaît alors et désormais comme un collégien attardé. Maurice Garçon, lui-même l'avocat de Denise, dira qu'Algaron n'est qu'un imbécile assimilant mal les livres. Mais il rappelle dans sa plaidoirie les lettres écrites par Denise, celles où elle évoque le désir de l'assassinat et l'angoisse de le commettre. Les jurés croiront-ils que Jacques ne les a pas comprises? Qu'il a pu ignorer une fois, deux fois, trois fois les tentatives d'assassinat? S'il n'a pas souhaité cet infanticide, a-t-il fait une seule chose pour l'en empêcher? Les jurés, sept agriculteurs de la région, se retirent pour délibérer. Ils n'ont pas seulement à juger un crime sans mesure, avoué, prémédité. Ils ont surtout à mesurer la part d'abus d'autorité définie par l'article 60 du Code pénal que l'amant a exercé sur la mère criminelle. Les délibérations se prolongent tard dans la soirée. Puis vient le verdict. Denise Labbé est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Jacques Algaron a 20 ans de la même peine. Les jours suivants, la presse s'interroge et le débat s'enflamme. A-t-on bien jugé? Selon la manière dont on regarde l'affaire, on peut estimer en effet qu'il est honteux, Jacques, et qu'il s'en sorte mieux qu'elle. Ou bien qu'il n'est que l'inspirateur presque romanesque du crime, qu'il ne l'a pas forcé, qu'on ne peut pas légalement le considérer comme le commanditaire. À ce compte-là, lit-on, on pourrait aussi condamner les auteurs qui l'ont inspiré, après tout, Gide, Genet, Sartre. Le journaliste Louis Poels conclut dans Paris Presse. C'est la justice humaine. Elle repose sur une idée pure et des moyens douteux. L'affaire Algaron ne pouvait être jugée que sur des interprétations psychologiques. La notion d'emprise, elle, n'entrera dans le code pénal qu'en 2020.
Notre bonheur est merveilleux, notre amour fait plaisir à Dieu. Il est plus pur, il est plus clair que l'eau limpide des rivières. Mon cœur étouffe quand tu es là. Ne touche pas à tout cela. Si un jour tu brises notre amour, si un jour tu partais pour toujours, tout sombrerait dans la nuit, les pauvres dans l'avenir. Leur perdrait leur parfum et se ferait la fin de toute joie. tes yeux pour moi sont bien plus beaux qu'un rayon de lune dans l'eau. Lorsque tu parles quelques instants, c'est comme la neige au printemps. Tu reviens, tu me tends les bras. Ne touche pas à tout cela. Si un jour tu brisais notre amour, si un jour tu partais pour toujours, tout sombrerait dans la nuit, les propos de l'avenir ne chanteraient plus.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, les Amandes de Vendôme, dont nous allons parler avec notre invité Frédéric Chauveau. Bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers, d'où vous nous appelez d'ailleurs, spécialiste de l'histoire de la violence et du crime. Vous êtes l'auteur notamment du livre « Figures de femmes criminelles de l'Antiquité à nos jours », publié aux éditions de la Sorbonne en 2010. Vous avez écrit également « Une femme, le féminicide, histoire et actualité » en co-direction chez Hermann. Ça c'était en 2019. Voilà. Vous avez aussi travaillé sur la notion de crime passionnel. Est-ce que c'est une notion qui existe noir sur blanc dans le droit, ou est-ce que c'est une expression communément employée hors du droit ?
Non, le crime passionnel, c'est une invention, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le droit. C'est un élément qui a été souvent, donc, comment dirais-je, précisé ou ajouté dans le cadre des débats pour justifier ou excuser donc un geste et un passage à l'acte. Mais le crime passionnel n'existe pas. La plupart du temps, d'ailleurs, dans le cadre de ces conflits, ce sont les femmes qui sont plutôt les victimes de ces crimes passionnels, puisque sur 100 criminels, hein, vous savez, il n'y a que 14 femmes. Et souvent, c'est plus qu'un crime passionnel, c'est un crime de propriétaire. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que la personne vous échappe, et à ce moment-là, on s'adjuge le droit de vie et de mort sur elle.
Donc, crime passionnel, on peut encore moins l'employer pour l'affaire qui nous intéresse.
Ah, tout à fait. Par contre, là, vous avez raison d'évoquer là, la question de l'emprise qui n'a pas du tout été suggérée au moment du procès. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette affaire est restée finalement assez célèbre, malgré peut-être une perte un petit peu dans la mémoire collective. C'est la question quand même du mystère du passage à l'acte.
Ah oui.
Parce que les juristes de cette époque-là distinguent souvent quand même, ils font un distinguo, si je puis dire, entre la préméditation et l'intention criminelle. C'est-à-dire que pour Denise Labbé, il y a forcément une intention criminelle, puisque là, vous l'avez rappelé, à juste raison, qu'il y a trois tentatives, balcon,
oui.
les trois scènes de noyade. Mais par contre, quand on lit les quelques lettres qu'elle a pu laisser, et quand on écoute attentivement les débats, en fait, le geste criminel a été fait un petit peu dans l'instance. Elle a profité des circonstances pour, par exemple, pousser sa fille d'une passerelle pour qu'elle tombe dans le bief de l'écluse, mais elle n'a pas minuté, donc, préparé, si je puis dire, minutieusement, minute par minute, le crime. Mais reste que, malgré tout, pour une mère, le passage à l'acte, là, reste un mystère, et c'est ça aussi qui a fait que cette affaire est devenue, comme vous l'avez également signalé par l'entremise de Cocteau, le procès du siècle.
Comme nous l'avons évoqué, le verdict de cette affaire a suscité beaucoup de débats. Alors probablement pas pour elle, mais pour lui. Et c'est la grande question à la fois de l'emprise et de son niveau de culpabilité. lui, parce que lui, il n'a pas tué l'enfant. Enfin, on sait tout ce qu'il a fait, toute cette emprise sur elle. Hein. Alors voilà, c'est quand même... Et j'imagine que pour l'époque, on avait moins réfléchi qu'aujourd'hui, c'est normal. Hein. Plus on avance dans le temps, plus on réfléchit à notre état de droit, à sa nature. On n'avait pas le concept de l'emprise. J'imagine que ça a été quand même un casse-tête énorme.
Oui, oui, c'était une des grandes difficultés, puisque finalement, à plusieurs reprises dans le cadre du procès, tous les grands chroniqueurs judiciaires qui étaient là en disant, bon, finalement, il y a deux versions, et les deux versions ne sont pas convergentes. Alors, soit c'est elle qui dit véritablement, donc la vérité, elle a très bien interprété ce qui s'est passé, soit au contraire, c'est lui qui est victime d'une vengeance, et elle finit par l'accabler. Et François Mauriac, d'ailleurs, l'avait dit un petit peu, si cette jurisprudence, finalement, devait faire loi, puisque pour lui, il y a un seul témoignage, c'est le témoignage d'une femme, et si cette jurisprudence devait faire loi, il n'y aurait aucune raison de s'arrêter à ce moment-là en bon chemin. Sous-entendu, si on tire tous les fils, on pourrait aussi incriminer donc les hommes de lettres, et oui. En particulier donc l'auteur des nourritures terrestres.
Lors de son réquisitoire, l'avocat général, Maître Gay, avait requis contre elle la peine de mort, mais aussitôt précisé que cette peine ne sera pas infligée à la jeune femme. Est-ce que vous savez ce qui motivait son intention, cette déclaration-là? Dire qu'elle mérite la mort, mais qu'il ne faut pas lui donner?
C'est-à-dire que traditionnellement, depuis en gros les années 1880, il y a évidemment quelques exceptions, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on considérait que si on pouvait prononcer donc la peine de mort, il ne fallait pas exécuter les femmes. Donc on ne conduisait pas les femmes au pied de l'échafaud, dans la guillotine. Donc là, il y a une sorte de jurisprudence, si je puis dire, qui s'est mise en place progressivement, ce qui explique très bien cette déclaration.
Mais qu'est-ce qui explique le postulat culturel selon lequel, de civilisation, selon lequel on n'emmène pas une femme à l'échafaud?
C'est
pas une colle, hein, pardon, mais ça me traverse l'esprit, quoi.
Non, mais bien sûr, mais c'est tout simplement au début, c'est sans doute une posture plutôt donc masculine, voilà, avec une forme de galanterie juridique, si je peux utiliser cette expression-là, en disant donc ça ne se fait pas de conduire une femme donc à la guillotine, même si on considère qu'elle a mérité la peine la plus extrême. Mais du coup, c'est une pratique qui était assez usuelle, ce qui fait que parfois les jurys se trouvaient un petit peu donc dédouanés à bon compte, en disant bon, de toute façon, elle sera graciée, voilà, on la conduira pas dans la lunette de la guillotine, il n'y aura pas cette mort qui pèsera à ce moment-là sur leurs épaules.
On va écouter une archive ensemble, on va encore écouter la voix de Frédéric Potcher, on ne s'en lasse pas à la fois pour ce qu'il dit, la façon dont il le dit, très théâtral, après tout un chroniqueur judiciaire, il assiste à quelques scènes de théâtre, c'est très, parce que le prétoire est très ritualisé, hein, en fonction de la fonction qu'on assume, on est habillé de telle ou telle façon, l'avocat général, l'avocat sont toujours placés à des endroits rituels, donc Potcher, elle est bien dans le décor. On va l'écouter, il parle de la nourrice de la fille de Denise.
Après quoi on entend Madame Laurent, qui a élevé la petite Catherine, qui adorait la petite Catherine. Madame Laurent, qui est infirme, est tout à fait bouleversée. Elle raconte la noyade manquée dans le canal. Nous n'avons jamais compris sur le moment comment Cathy avait pu aller seule jusqu'à l'eau. Le président et Denise Labbé, Madame Laurent. Elle adorait son enfant, Monsieur le Président. J'ai cru qu'elle avait eu un immense chagrin. Un mois après, Madame Laurent apprend par un télégramme de Denise que Catherine est morte à Vendôme. Un accident, disait le télégramme. Les Laurent sont partis pour Vendôme. Ils sont allés chez les Dussert où Catherine était morte la veille. Madame Laurent, j'ai vu son petit corps, Monsieur le Président. C'était pas croyable, le Président. Et Denise Labbé, Madame Laurent, elle était affreuse à voir, Monsieur le Président. Elle n'avait plus une goutte de sang dans les veines de son visage. Elle ne pouvait pas manger. Et Monsieur le Président, j'ai su après qu'elle avait dit à ma fille, Jacques m'a demandé une chose atroce. Moi, Monsieur le Président, je ne croyais pas au crime, je ne pouvais pas y croire, c'est affreux. La pauvre Madame Laurent, effondrée en sanglots, quitte la barre, et Algaron est devenu vert.
Alors, on se met dans la tête des jurés, ça devait vraiment pas être facile, hein, même terrible, de juger ce crime, et notamment avec ces témoignages, parce que quand la nourrice parle de l'amour qu'avait cette mère pour son enfant, ça rend encore plus compliqué pour des jurés qui n'ont peut-être pas été habitués, j'imagine, à réfléchir à des thématiques aussi terribles.
Oui, à la fois réfléchir à des thématiques aussi terribles, et dans la plupart des procès, ça reste quand même, si je veux dire, des situations relativement exceptionnelles, parce que Madame Laurent a bien souligné à plusieurs reprises que la petite Cathy bénéficiait d'un trousseau brodé comme elle n'en avait jamais vu, et elle souligne aussi devant le jury que finalement, Denise l'abbé, était une vraie maman. Alors on imagine évidemment la difficulté
le trouble,
voire même l'effroi, et puis vous l'avez dit aussi dans l'émission, le fait aussi que le jury voyait en permanence la lessiveuse qui était mise au pied de la table des convictions, puisqu'on a plusieurs de dessins, si je puis dire, qui ont subsisté de la scène. Alors donc cette lessiveuse, c'est une pièce à conviction matérielle, mais elle a sans doute fait le même effet auprès des membres du jury que la cuisinière de Gambet, de Landru, qui est restée donc en permanence comme ça dans la salle des assises. Donc là, évidemment, quand les jurés ont dû décider, il est évident que c'est cet objet matériel, la trace tangible du crime, a affecté aussi leur décision.
On imagine aisément, effectivement. Patrick Chauveau, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Rihanna, Love on the Brain.
No matter what I do, I'm no good without.
Frédéric Chauveau, je rappelle que vous êtes l'auteur notamment du livre « Figures de femmes criminelles de l'Antiquité à nos jours », d'où la question qui suit. Des nombreuses femmes criminelles n'ont cessé d'inspirer l'imaginaire collectif, livres, films, romans, je pense à Violette Nozière, les Sœurs Papin. Et c'est pas le cas avec Denise Labbé. Alors pourquoi? Parce que c'est lié à la nature du crime, l'infanticide, tabou. Ou est-ce que cela tient plus simplement à la personnalité de Denise, qui sera pas assez mystérieuse, pas assez vénéneuse?
Je crois que c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que c'est toujours un mystère pourquoi certaines affaires passent à la postérité alors qu'elles ont été absolument abominables et puis sont après coup oubliées. Mais le crime de la noyade, c'est quelque chose qui est quand même qui est resté permanent. C'est-à-dire que la plupart des affaires qui ont été résolues ou c'est un enfant qui est noyé, bien souvent c'est une femme qui en est l'auteur. Et ce qui fait que ça va orienter d'emblée les premiers soupçons et les premiers éléments de l'enquête des magistrats instructeurs. Et donc cette affaire aurait pu être prolongée, on en a fait également donc un film, mais finalement elle s'est progressivement délitée dans la mémoire collective. Alors, il y a eu d'autres affaires de ce type-là. Dans les années 30, par exemple, un grand chroniqueur judiciaire comme Jolondon raconte une scène à peu près similaire où c'est une mère qui va noyer donc son enfant dans une citerne pour pouvoir tout simplement convoler à ce moment-là avec son amoureux du moment.
Le crime, le fait divers, fait police-justice, et parfois, parce que c'est pas toujours le cas, mais parfois une fenêtre ouverte sur la société. De quelle société nous parle ce crime?
Alors, ce crime nous parle sans doute de la, si je peux dire, de la place de la jeunesse, hein, même si évidemment les deux protagonistes ont aux alentours de 30 ans. Mais dans ces années-là, il y a plusieurs affaires qui reviennent sur le devant de la scène, comme la fameuse affaire des J3, si je peux dire, de Melun, où ce sont donc des lycéens qui, par jalousie et par complicité, ont tué donc l'un d'entre eux. Mais à ce moment-là, il est vrai que la jeunesse n'a pas beaucoup d'existence, elle est totalement donc corsetée. Et puis, vous l'avez dit aussi très justement, il y a de la part des deux principaux protagonistes une liberté sexuelle qui est assez étonnante pour l'époque. Mmh. En tout cas, ça ne s'affichait pas de cette manière-là auprès de l'opinion publique.
Il y a aussi une autre image qu'on a souvent collée à Denise Labbé, celle d'une sotte d'origine modeste qui ne pouvait pas vraiment comprendre les discours empoulés philosophiques ou pseudo-philosophiques de son amant. Bon, c'est un autre cliché là qui mettrait dos à dos la provinciale et le jeune homme éduqué qui lit de la philosophie.
Oui, les clichés ont la vie dure, mais là, pour Denise Labbé, quand on regarde attentivement, même si parfois on a minimisé, si je peux dire, la difficulté des épreuves qu'elle a passées pour entrer à l'Institut de statistique, elle est quand même décrite comme quelqu'un de particulièrement brillant et intelligent. Et au moment du procès, on a joué effectivement un petit peu sur la rivalité ou la dichotomie entre les deux, avec l'élève officier qui lui était donc grand lecteur brillant, avec son amante qui n'était pas capable de comprendre ce qu'il pouvait lui dire. On a joué un petit peu là-dessus pour les opposer. C'est à la fois évidemment le cliché sur la jeune fille de province mal dégrossie. Donc, mais tous les témoignages en fait donnent en réalité un autre portrait de cette jeune fille.
Frédéric Chauveau, ce sera le dernier mot. Je vous remercie. Je note ce que vous m'avez dit parce que c'est un sujet de réflexion et confirmez si c'est bien ça. 14% des criminels sont des femmes. C'est ça. C'est ce que vous m'avez dit, hein.
Voilà, oui.
On va réfléchir à ça, c'est intéressant. Merci, merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Amants de Vendôme, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Et si 14% des criminels sont des femmes, eh bien ça veut dire que 86% des crimes sont perpétrés par des hommes. Voilà, merci à Clément Vuillet qui était à la technique aujourd'hui.